Donc il lui a dit, apporte-moi, oui, alors j'étais en train de vous expliquer ce que c'est qu'un afarkas. D'après tout le monde, c'est un kli. Si vous voulez, c'est comme une bouteille, il y a un goulot de bouteille, puis ensuite ça s'élargit, et la paroi du bas est formée de... Il y a dans la paroi du bas une multitude de tout petits trous. Évidemment, si on bouche l'embouchure complètement, ben ça coule plus parce que il n'y a pas d'appel d'air, il n'y a pas de pression. Donc, si on enlève son doigt, ça coule par tous les petits trous. Donc, c'est le principe de votre chauffe-eau. Il faut qu'il y ait une ouverture, faut qu'il y ait la pression. Si tout est fermé, ben ça coule pas. Donc il lui amène une clepsydre ou une afarkas. Il la lui a amené. Nathan allait à Tas Shel Zahav. Et il a mis sur l'embouchure, il a mis une assiette d'or. L'eau amdou amaï. Et l'eau a continué de couler par les petits trous. Tas Shel Kesef. Ensuite, il a remplacé ça par une assiette, une plaque d'argent. Ça a continué de couler. Maintenant, il a mis son doigt dans l'embouchure. L'eau a cessé de couler. Avec son doigt, il a bouché complètement l'embouchure. Et maintenant, il lui a expliqué. Il lui avait le doigt, c'est le doigt du kouti. Amar lo, Rameir lui a dit, Ezbaha atanoten, quand tu mets ton doigt, d'accord? Amar lo, maani, shani, alors, ah non, excusez-moi, c'est Rabbi Meir qui a mis son doigt, et le kouti lui a dit, mais tu as mis ton doigt. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Alors Rameir lui a dit, ma ani shani basar vadam, moi qui ne suis qu'un être de chair et de sang, mon doigt peut faire arrêter l'écoulement de l'eau. Etzbao shel Hakadosh Baruch Hu, le doigt d'Hachem, bien entendu, qui peut empêcher l'eau de couler. Ve ma'im ha'elyonim tluyim b'ma'amar. C'est ça qu'il faut comprendre, que les eaux d'en haut, elles ne s'écoulent pas parce que la parole d'Hachem joue le rôle du doigt, si vous voulez, dans la clepsydre. Ça dépend du ma'amar, de la parole. Alors il lui a dit, Efshar oto shekatuf bo. Alo et hashamayim vet haaretz ani male. Ayam daber im Moshe miben shnei bade Aaron. Et le kouti continue de lui poser des questions. Et il lui dit, est-ce qu'Hachem a pu vraiment parler avec Moshe Rabbeinu? Vous savez, vous vous souvenez probablement que quand Moshe Rabbeinu parlait avec Hachem, la voix d'Hachem semblait provenir d'entre les badim, entre les barres qui tiennent le Aaron HaKodesh. Il y a d'autres explications entre les Krouvim, enfin, là c'est entre les barres. Comme vous savez, sur l'arche de l'Alliance, sur le Aaron HaKodesh, il y avait des barres. Les barres, a priori, elles existaient aussi sur la table, sur le shulchan, etc. Mais les barres sur les autres objets, c'était des barres qui étaient amovibles et qu'on ne mettait que quand on voulait transporter les objets. Mais les barres du Aaron HaKodesh, elles étaient là en permanence. On ne les enlevait jamais. Pour toutes sortes de raisons dont on ne va pas parler immédiatement, en tout cas. Alors, entre les barres en question, c'est-à-dire un espace très restreint, le kouti lui a dit, est-ce qu'il est possible que Hachem parle avec Moshe Rabbeinu dans cet écart des deux barres du Aaron HaKodesh, alors que on dit d'Hachem, ou Hachem lui-même le dit dans le Navi, où Hachem dit, je n'emplis pas le Shamaim Vaharetz, le ciel et la terre. Donc, comment est-ce possible? En fait, c'était déjà une question. D'une certaine manière, la question n'est pas complètement folle, si vous voulez, parce que Moshe Rabbeinu l'avait posée presque comme ça à Hachem lui-même. Quand Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de construire le Beth Amikdash, de construire le Beth Amikdash en kit, c'est-à-dire le Mishkan, alors Moshe Rabbeinu a dit, mais Hashamayim Ushmei Hashamayim lo yichal kelucha, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Comment est-ce que je peux construire quelque chose qui va te contenir? Tu me demandes de construire ta résidence, c'est pas possible. Alors Hachem a répondu à Moshe Rabbeinu, toi tu fais ce que je t'ai dit avec tes morceaux de bois, tes tentures, tes couleurs, etc. Et moi je me débrouille pour rentrer dans cet endroit-là. Donc ici, Moshe Rabbeinu lui-même avait demandé comment est-ce qu'Hachem peut résider dans le Mishkan. Lui il demande comment est-ce qu'Hachem peut parler à partir de l'entre-deux, entre les deux barres. Alors, Rabbi Meir continue de lui répondre, il va essayer de lui faire comprendre, et il lui dit, amène-moi un miroir grossissant. Et il lui a dit, regarde ton image. Tu vois bien qu'elle est beaucoup plus grande que toi. Et ensuite, il lui a dit, amène-moi un miroir qui rapetisse les choses, qui réduise. Il le lui a amené et il lui a dit, tu vois, ton image dans ce miroir, et tu vois bien qu'elle est beaucoup plus petite que toi. Et donc, il a donné le raisonnement. Ma im atash et ata basar vadam. Toi qui es un être de chair et de sang. Ata mshane atzmecha bechol ma shetirtze. Toi, tu peux te modifier ton image par le biais de ces miroirs, comme tu veux. Alors celui qui chez Amar Vehaya Ha'olam, Baruchu, celui qui a parlé, le monde a été, la parole duquel le monde existe, Baruchu, Alachat Kama Vekama, plus forte raison. Quand il veut, que chez Urotse, Alo et Hashamayim Vet Haaretz Animale. Quand Hachem le veut, il remplit le ciel et la terre. Ou que chez Urotse, quand il le veut, Ayam Daber im Moshe, mi ben shna bade Aaron. Il parle avec Moshe entre les deux barres du Aaron HaKodesh. Amar Rabbi Hanina bar Issi. Pamim shena olam umlo'o marzikim kvod elokuto et pamim sheum daber im adam miben sarot rosho. Ada udirtiv, c'est ce qui correspond au pasuk qui dit vayan Hashem et Iyov min asa'ara. C'est un jeu sur le mot. Hashem a parlé à Iyov au milieu de la Sahara. La Sahara avec un sin, c'est la tempête. Mais ça, avec un samer, c'est la tempête. Mais si on écrit Sahara avec un sin, alors c'est les cheveux. Alors, certaines fois, Hachem parle à l'homme entre deux des cheveux de sa tête, comme on voit qu'Hachem a parlé Mina Sahara. Donc on est d'Oresh, la tempête, ici on la remplace par Saharot. Mi ben Saharot Rosho donc. Veod Shalo Il a encore posé une autre question. Efchar, est-il possible que Peleg Elokim Malemaim Misheshet Yeme Breshit Velo Chaser Klum Etma? Le Kuti a reposé encore une nouvelle question. Il dit, est-il possible? Alors, c'est une, que cette expression de Ruach Elohim, c'est une forme poétique, c'est dans les Teilim. Le ruisseau d'Elohim, en fait, c'est-à-dire de nouveau les eaux d'en haut, c'est toujours ça le problème. Comment est-ce que ces eaux d'en haut peuvent ne pas perdre? C'est-à-dire, c'est complètement étanche. Comment est-ce que ça reste toujours plein d'eau? Comment c'est possible? Depuis les 6 jours de la création, il n'y a absolument aucune perte d'eau. Ça, c'est à nouveau sa question. Alors, Rameir lui a dit, va au hammam. Et il est allé. Et quand il est sorti, en fait, en réalité, avant d'y aller, il s'était pesé. Ma mère l'a dit, avant d'entrer dans le hammam, tu te pèses toi. Quand il est sorti, il s'est pesé une deuxième fois. Il n'avait pas maigri. Alors, ma mère lui a dit, écoute, toute la transpiration, toute la sueur que tu as perdue en quelque sorte quand tu étais dans ce hammam, et ça n'a en rien changé ton corps. Tu pèses toujours la même chose. Alors il lui a dit, ma ata, shata basar vadam, lo chaser mayan chaklum. Toi, tu es un être de chair et de sang, et ton mayan, ta source d'eau, ta quantité d'eau dans ton corps, elle n'a pas perdu quoi que ce soit, malgré toute la transpiration. La source d'Hachem, la plus forte raison. Effectivement, ce Peleg Elokim, ce ruisseau d'Elokim, il est plein d'eau depuis la création, depuis les 6 jours de la création. Et en fait, Natanam Chetsiam Barakia, et Hachem l'a partagé. Il en a mis la moitié dans le ciel, donc c'est les eaux d'en haut, et l'autre moitié Chetsiam dans l'océan. Daoudirtiv, Peleg Elokim, Male Maim, Pilga. Peleg, c'est la moitié. C'est la dispersion, en quelque sorte, la séparation. Voilà. Voilà ce midrash. D'accord. C'est donc un midrash, avec les questions d'un Kuti à Rabbi Meir et les réponses de Rabbi Meir avec des images. Il essaye de faire en sorte que le Kuti comprenne la réponse que Rabbi Meir lui donne. Et pour le lui faire comprendre, il lui donne des exemples bien concrets. Donc, il y a le premier point, c'est que Rav Meir prend beaucoup de temps pour expliquer à ce Kuti, qui pose des questions dont on peut se demander en quoi est-ce que ce sont des questions de Kuti? Est-ce qu'un, disons, un juif orthodoxe pourrait pas poser ces questions? Est-ce que quand on lit le texte, on se pose pas ces questions? Je vous ai dit, une des questions est presque la question de Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'on présente ça comme des questions d'un Kuti? Et peut-être que c'est ça la réponse à la question pourquoi est-ce que Rav Meir s'en occupe. Parce que c'est vrai que c'est un côté qui pose la question. Mais les questions sont peut-être de bonnes questions. C'est-à-dire, alors il faudrait, comme toujours, quand quelqu'un pose une question, il faut savoir que il y a des... Dans Gemara, dans Chagiga, on parle effectivement de toutes sortes de sujets sur lesquels on ne pose pas de questions. Et on considère qu'on n'a pas de questions à poser. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pose pas de questions? Alors, c'est toujours un enseignement que je crois avoir déjà donné plusieurs fois. Quand vous posez une question, vous ne la posez que, ce sera une question bien réfléchie, bien sûr, que si vous avez une idée de la réponse. Ça veut dire que si vous posez la question de, je sais pas moi, une question dont quel est le, par exemple, quel est le, quelles sont les dimensions de du texte que vous avez devant vous. Vous en avez un. Bon, vous savez déjà quand vous connaissez pas la réponse, disons. Mais vous savez que si la réponse c'est que elle se dit en kilomètres, bon, c'est 3,5 km sur 4,5 km, vous savez que c'est faux. Vous ne connaissez pas la réponse, mais vous avez quand même une idée de la fourchette dans laquelle la réponse se trouve. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas savoir. C'est des choses qui nous dépassent complètement. Et c'est ça les questions qu'il ne faut pas poser. Parce que ça ne veut rien dire du tout. Ça n'est pas une question. Tu ne peux pas savoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. On vit avec des choses qu'on ne connaît pas. En ce moment, on est en train d'expérimenter la chose. Et donc, le Kouti pose ici des questions. Alors, on va regarder encore une fois les questions qu'il pose. En quoi est-ce que... Il pose quand même trois questions. Est-ce que ces questions sont des questions séparées, qui dépendent l'une de l'autre, ou est-ce qu'elles sont tout à fait indépendantes? Alors, il commence par poser une question sur les eaux d'en haut. Pourquoi il pose cette question? Parce que on a déjà parlé longuement de cette histoire des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Mais en réalité, dans les... quand Hachem a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, bon, ben, les eaux d'en haut, elles sont au-dessus du Rakia, mais elles tiennent sur quoi? Les eaux d'en haut, elles sont en fait donc quasiment en l'air. Elles tiennent dans l'air, si on peut parler comme ça. Parce que dans le numéro précédent que j'ai sauté, en fait, c'est aussi une Gemara dans Chagiga. En fait, il y a le Rakia, et puis il y a les eaux d'en haut. Et entre les eaux d'en haut et le Rakia, il y a un espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de support. On ne peut pas dire que les eaux d'en haut, elles reposent sur le Rakia. Il y a un espace entre les deux. Et puisqu'il y a un espace entre les deux, ça veut dire que elles tiennent, les eaux d'en haut, elles tiennent, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment elles tiennent. Alors, elles tiennent parce que Hachem l'a dit. Il y a Rakia et qui est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors le Kouti pose la question, il dit, mais est-ce que c'est possible? Ou on a l'impression que quand il dit que est-ce que c'est possible, Efchar, il demande, est-il possible que Amaïma et Lyonim Tlouim be Mahamar, est-ce que les Maïm d'en haut, les eaux d'en haut, elles peuvent dépendre d'une parole? Tout ce qu'il y a pour les faire tenir, c'est la parole divine, puisqu'il n'y a aucun support pour ces eaux d'en haut. Alors, Rabbi Meir va lui répondre avec cette histoire de la clepsydre. Donc, là, on a une analogie, si vous voulez. Vous avez de l'eau qui coule. L'eau, elle coule par tous les petits trous qui sont dans la paroi de ce keli, de cet ustensile, qui est percé de trous, et l'eau s'écoule. Et, comme il dit, pour le faire bien comprendre, il dit, on peut mettre de l'or, de l'argent, rien n'y fait, ça coule. C'est pas étanche, si vous voulez, en haut, c'est pas, il y a toujours de l'air qui passe, et donc il y a une pression, et donc l'eau s'écoule. Mais quand il met son doigt pour boucher l'orifice en haut, il y a plus de, c'est complètement étanche, et donc l'eau s'arrête. Qu'est-ce qu'il lui donne? Qu'est-ce qu'il lui donne comme réponse? Il dit, tu vois, un être de chair et de sang, il suffit qu'il mette son doigt pour empêcher l'eau de couler. Et tu mets pas, c'est pas que tu supportes l'eau. La façon de l'empêcher de couler, c'est pas du tout de retenir l'eau de manière artificielle. C'est pas une retenue d'eau, en fait. C'est d'empêcher le processus qui va faire couler l'eau, c'est comme si on disait que l'eau d'elle-même, elle ne va pas couler. Il faut qu'il y ait quelque chose qui la fasse couler. Et tu peux l'empêcher en mettant ton doigt dans l'orifice supérieur de, pas les petits trous, mais le grand trou par lequel on a rempli cet objet, ce clé, on l'a rempli d'eau. Tu mets ton doigt là-bas, tu fermes complètement, hermétiquement. L'eau s'arrête de couler, sans qu'on ait touché l'eau. D'ordinaire, quand quelque chose tient, c'est ça la question du kuti, quand quelque chose tient, alors il y a des supports, des piliers, des toutes sortes de choses qui éventuellement peuvent faire tenir la chose. Ce qu'il lui répond, c'est s'il n'y a pas de pilier. C'est un autre système, pas le système des piliers. Toi, tu vois les choses en termes de piliers, parce que, effectivement, pour faire tenir quelque chose dans ce monde-ci, en général, il faut des piliers. Eh bien, ici, les choses, elles tiennent, mais elles ne tiennent pas. L'eau en question, elle ne tient pas. Il n'y a pas de pilier qui l'empêche de s'écouler. Il y a autre chose. Alors, son doigt, qui agit pas du tout sur l'eau, mais qui agit en amont, ce que répond Rabbi Meir, c'est que la parole d'Hachem, elle agit exactement, elle peut agir exactement comme ton doigt. C'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'un pilier pour empêcher l'eau de couler. Et Maïma Elionim, elle ne coule pas, mais pas parce qu'il y a des piliers qui empêchent de couler, en fait, qui bouchent les petits trous. Les petits trous, ils sont là. Ça ne coule pas parce qu'Hachem a décidé que ça ne coulerait pas. C'est l'application, on dirait, c'est l'application d'une loi physique. Pour que ça coule, il faut que ça soit pas complètement bouché en haut. Donc, ce que Rabbi Meir lui dit, c'est qu'il existe dans le monde un autre moyen d'empêcher l'eau de couler, sans du tout toucher l'eau. Donc, tu n'auras pas de difficulté à comprendre que le doigt d'Elohim, Akadosh Baruch Hu, effectivement, il peut faire ce que toi tu peux faire avec ton doigt. Alors bien sûr, c'est pas du tout qu'il n'y a pas le doigt d'Elohim qui bouche. Et c'est la parole d'Hachem. C'est quoi la parole d'Hachem? Plus exactement, qu'est-ce que c'est qu'une loi physique? Une loi physique, c'est une loi de la nature. Mais la nature, c'est Hachem qui l'a fabriquée. Exactement comme il a tout fabriqué. Et d'où viennent toutes ces lois? Elles sont, toutes ces lois sont des expressions de la parole, de la parole divine. Hachem parle et ce qu'il dit devient une loi. Donc il a dit que ces eaux allaient se tenir de cette manière-là. Bon, c'est ça la loi. C'est la même loi. C'est pas différent d'une loi. Une loi physique. Bon, il faut pas. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est un couti? Parce que lui, son idée, c'est que tout est immanent, quoi, quelque part. Donc, il pensait que, et ce qu'on lui montre, c'est que même à l'intérieur de son système, dans les lois de la nature, il y a aussi une possibilité d'empêcher de couler sans le système des piliers, sans qu'il y ait quelque chose dessous qui empêche de couler, qui vienne au contact direct de l'eau pour l'empêcher de couler. C'est pas qu'on a bouché les petits trous, où l'eau serait en contact avec les bouchons qu'on a mis, pas du tout. Même dans ton système. Pourquoi? Parce que ce système-là, si tu le regardes bien, tu apercevras que c'est aussi un système qui est gouverné par Hachem, par la parole divine. Cette parole divine, elle s'exprime. Quand ce sont les lois qu'on appelle les lois de la nature, c'est-à-dire lorsque le monde fonctionne tel que Hachem a décidé qu'il allait fonctionner de façon standard, ben, ce sont devenus des lois de la nature, des paroles. Il y a une parole divine qu'on va appeler éventuellement un malach, ou etc. Bon, c'est un truc spirituel qui devient une loi. Ça veut dire vous avez un malach qui s'appelle, je sais pas moi, gravitation, par exemple. C'est un malach comme un autre. C'est aussi le malach que celui que là, je vous avais présenté récemment, qui s'appelle hormone de croissance. Celui-là, on connaît mieux. Il y a des malachim dont on connaît les noms. Il y a des malachim dont on connaît pas les noms. Il y a aussi des phénomènes qu'on comprend pas encore. Donc évidemment, on n'a pas pu leur donner des noms. C'est toute une partie de la physique qui est pas comprise, sur laquelle il n'y a pas encore de nom. Mais on avance. Il y a une mitzvah d'essayer de comprendre, de connaître Hachem en connaissant ses œuvres, en connaissant les lois qui sont en fait l'expression de la volonté divine. Et on a déjà vu plusieurs fois que dans la Torah, on fait toujours attention, a priori, de ne pas être en contradiction avec les lois de la nature. On va pas demander des choses qui sont contraires. La Torah ne demande pas en général des lois, des choses qui sont contraires aux lois de la nature, sauf que certaines fois on explique que ça fonctionne comme ça. Ça c'est des lois pour le monde entier. Il y a maintenant, il y a eu un changement radical, si vous voulez, qui s'appelle Matan Torah, qui a commencé par les Yetziat Mitzrayim. Et le Ramban explique que dans cette Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, etc., les gens qui ont accepté la Torah, les Israël, ils ont accepté de vivre selon d'autres lois. Ils vivent évidemment selon les lois de la nature aussi, mais ils vivent aussi selon d'autres lois, selon d'autres principes. Ça veut dire que, d'une certaine façon, les mêmes choses ne sont pas obligatoirement vécues de la même manière par les Bnei Israël et par les autres. C'est En fait, ce qui se passe, c'est que les Bnei Israël n'ont pas le droit de ne les vivre que comme les autres les vivent. Les Bnei Israël ont accepté un mode de vie différent. Ils ont accepté que les choses s'appliquent à eux selon le principe de Sechar ve'Onesh, selon le principe du salaire et de la sanction. C'est-à-dire les choses qui nous arrivent ne nous arrivent pas simplement par l'application des lois de la nature, mais nous avons l'obligation de nous demander pourquoi ça nous arrive, parce que ça nous arrive aussi, souvent exactement la même chose qu'aux autres, mais nous on a une obligation de réfléchir différemment. C'est pas que les autres peuvent pas réfléchir. Ils ont normalement aussi l'obligation de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur, le cas échéant, par rapport aux lois de la nature. Eux non plus, ils peuvent pas eux ne peuvent absolument pas se libérer des lois de la nature. Les Bnei Israël, enfin, en ce moment, on est en train de vivre la même chose que tout le monde. Tout le monde vit à l'époque de ce fameux virus qui chamboule le monde. Quelles que soient les explications qu'on va donner, tout de facto, à tort ou à raison, peu importe, de facto, le monde est complètement chamboulé. Et on est affaire à quelque chose qu'on comprend absolument pas. Bon, on avait des théories qui expliquaient pourquoi ce pays-là, pourquoi l'Allemagne, etc. C'est mieux, ils ont mieux réussi. Ou les Suisses, etc. Je serais fier d'eux, chez nous. Voilà, ben, la deuxième vague, ils sont pires que tout le monde. Rien, on comprend rien du tout. Et ça change rien qu'on le nie ou qu'on l'explique de telle manière, qu'on raconte une sorte de théorie complotiste et tout ce que vous voulez. Ça ne change rien à rien. De facto, il y a eu un moment, je crois que c'est peut-être plus le cas maintenant exactement, il y a eu un moment où la moitié de l'humanité était confinée. C'est quand même jamais arrivé. À tort ou à raison, peu importe. Mais de facto, la moitié de l'humanité était confinée. Mais nous, Bnei Israël, on n'a pas le droit de dire simplement c'est le virus. Oui, c'est le virus. Mais quand le virus touche un Bnei Israël, il doit se demander qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Nous, dans notre monde, les virus ont un sens. Nous sommes obligés de donner un sens. Et un sens moral, si on peut parler comme ça. Mais aussi, ça peut être, on peut aussi être amené à donner un sens physique. Aussi, comme les goïms peuvent très bien dire, oui, on a fait une erreur volontaire. Enfin, il y a une erreur, il y a un problème. Il y a eu une erreur ou une manipulation, peu importe. En tout cas, on peut dire il y a une cause à ce qui se passe. Mais nous, la cause, on la cherche ailleurs. On doit lui donner un autre sens. Bon, c'est très difficile parce que la pression dans laquelle on vit en galoute. Et en galoute, on est influencé par la façon de raisonner des goïms. Et en vérité, très souvent, si nous nous interrogeons, si nous nous prenons à témoin nous-mêmes, on verra que on est en train de raisonner comme des goïms. C'est une erreur, évidemment. Le Kouti, lui, c'est des gens qui sont un peu ambigus, justement, ces Kouti. C'est parce que la question, elle est une question qui peut s'entendre, même si on n'est pas idolâtre. Même si on n'est pas... Il lui dit, il demande Efchar. Bien sûr qu'on peut mettre un ton. on peut lire le Efchar, est-il possible que, de façon plus ou moins agressive. Mais je présume que Rav Meir n'a pas vu chez ce Kouti une démarche agressive. C'est quelqu'un qui n'a pas tout appliqué. Et qu'est-ce qu'un juif orthodoxe, si vous voulez, d'aujourd'hui, répond à la question qu'il pose? C'est vrai que ça tient sur rien. Alors, on peut très bien, la plupart des gens, ils lisent les psaumes et puis on passe, comme on dit, au point suivant de l'ordre du jour. Bon, c'est-à-dire, on s'arrête pas sur la signification. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comment l'expliquer? Après, il viendra, ok, il a posé la question et Rav Meir lui a répondu. Qu'est-ce que Rav Meir lui a répondu? Oui, Hachem le peut. Est-ce que c'est une réponse? Alors, comment est-ce qu'il a argumenté, Rav Meir? Il lui a dit, tu vois, même dans ton système, c'est pas obligatoirement comme tu crois que ça fonctionne. Toi, tu crois que pour empêcher l'eau de couler, il faut boucher les trous? Je te montre que c'est pas en bouchant les trous qu'on arrête l'eau, qu'on empêche l'eau de couler. Donc, c'est, à la limite, on pourrait presque dire, un peu comme c'est-à-dire, on rapporte au nom de Chafetz Chaim, qui a dit que tous les progrès scientifiques et autres, ils sont là pour nous aider dans notre émouna. Nous, en émouna, on n'est pas terrible. C'est-à-dire, on n'a plus cet émouna qu'avaient éventuellement les générations précédentes. Alors, pour nous aider, Hachem nous a fait en sorte qu'il y a dans le monde des éléments qui nous permettent de, pas de comprendre, mais qui nous, ça nous met sur une trajectoire en quelque sorte, vers la compréhension ou vers la compréhension de ce qu'on comprend pas. N'est-ce pas? Il est clair que quand dans Pirkei Avot, on lit qu'il y a un œil qui voit, etc. Quand tout est vu, entendu, etc. Imaginez, il y a 100 ans. Est-ce qu'on pouvait bien penser de cela? Ok, on est mamine. On y croit. C'est marqué dans le cavote, on sait vrai. Mais aujourd'hui, que notre émouna n'est pas tellement forte, on a peut-être besoin d'aide. Eh bien, on a toutes sortes d'aides qui montrent comment, effectivement, tout peut être vu, entendu, etc. C'est pas du tout que Hachem fonctionne avec la technologie des hommes. Mais les avancées technologiques nous permettent de comprendre ce qu'on comprenait pas du tout avant. Vous voyez, c'est comme si, en fait, avec la technologie, on a une progression vers une compréhension. Seulement, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que tout en haut, là-haut, il y a un changement radical. Il y a ce problème de la transcendance. Vous voyez, dans le monde, on voudrait arriver à une compréhension immanente sans faire appel à la transcendance. À tout expliquer dans ce monde-ci avec les lois, qui sont aussi des lois d'Hachem, en vérité, n'est-ce pas? Donc, à la limite, ça me dérangerait pas qu'on arrive à comprendre mieux certaines choses, même avec les moyens du bord, avec la science. En fait. C'est Hachem qui a ouvert les accès à la connaissance. C'est pas pour rien que ça s'est passé à un moment bien précis, etc., où ces choses-là explosent. La connaissance explose. C'est Hachem qui a fait en sorte que les hommes comprennent certaines choses. Et le Chafetz Chaim dit, c'est pour nous aider dans la Emouna. On peut donner aussi d'autres explications, mais bon, ça c'en est une qui me plaît assez bien. Et donc le Kouti en question, il pose une question. Rav Meir lui répond, dans ton système à toi, il y a aussi quelque chose que tu n'as pas compris, tu comprends pas. C'est sûr qu'au temps des Koutim, on savait probablement pas pourquoi en mettant son doigt, l'eau arrêtait de couler.
Rav,
oui.
J'ai une question par rapport. Je sais pas si j'ai une idée de la réponse, mais je pose quand même la question. Vous avez dit que c'était cet accès à la connaissance, c'était pour nous aider dans notre émouna. Pardon.
C'est ce que dit le Chafetz Chaim, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Oui. Mais néanmoins, il semblerait quand même que les lumières, c'est plutôt éloigné.
Oui, parce que la connaissance, elle peut inciter les gens à s'éloigner ou à se rapprocher.
Non, mais on parle du 16e, pas du 18e.
Il y a une position de principe. Voilà comment je décide de prendre la connaissance. Mmh. Aussi dire la connaissance, elle vient enlever les idées complètement fausses. Ouais. Alors c'est vrai probablement que ça enlève certaines idées fausses. Bon, il y a toutes sortes d'idolâtries qui disparaissent des pratiques idolâtres qui disparaissent grâce à toutes sortes de magie, etc., qui disparaissent grâce à la science. Mmh. Donc c'est des progrès dans la non-idolâtrie.
Il faut déjà avoir un petit peu d'émouna quand même pour orienter la réflexion sur un versant de transcendance et pas d'immanence.
Oui, parce que ce qu'il lui montre, c'est quand même dans
ton... Ça a l'air de renforcer les autres, justement. Ça a l'air, au contraire, de renforcer les autres.
Ça les renforce seulement... Parce que la plupart des gens comprennent même pas ce à quoi on est arrivé. Et donc ils ne savent pas du tout ce que dit vraiment aujourd'hui la science dans toutes sortes de domaines. Et donc ils s'imaginent que ça vient seulement contredire des bêtises. Oui, c'était des bêtises, celles-là elles sont contredites. Mais maintenant, ce vers quoi ça ouvre, très bien, ça ouvre la connaissance, une connaissance d'Hachem. Hachem, nous avons la mitzvah d'essayer de connaître. La Torah, elle ne nous donnerait pas une mitzvah de connaître si elle pensait que ça allait contre la Torah, si la connaissance allait contre la Torah. On devrait te dire, interdit d'utiliser ça, t'as pas le droit de dire que la Terre est ronde, tu peux pas dire que la Terre tourne, tu peux pas dire qu'elle est pas au centre physique du système solaire, etc. On pourrait dire comme ça, mais ça n'existe pas, ces choses-là. Ça n'existe pas chez nous. Il y a des gens qui sont influencés par l'environnement non-juif, en fait, qui n'est pas un environnement de Torah. Mais dans un environnement de véritable Torah, à ma connaissance, je vois pas du tout en quoi c'est dérangeant. Au contraire, je trouve ça formidable. Mais bon, peut-être. C'est vrai qu'il faut peut-être une... Si vous voulez, le problème de la émouna, c'est un problème de confiance. Donc la confiance, ça se construit. C'est vrai que si quelqu'un qui fait confiance à rien, il n'y arrivera pas, mais c'est pas viable. Vous êtes obligé de faire confiance, minimum. Sinon, on pouvait même pas rester chez vous, parce que vous pouvez pas faire confiance aux gens qui ont construit votre maison, elle va s'effondrer sur vous. Vous pouvez pas traverser la rue parce que personne ne dit que un type va pas vous foncer dessus et vous écraser. Vous pouvez pas acheter votre pain parce qu'il a, peut-être le boulanger, il a mis un peu d'arsenic dans votre pain. Vous êtes bien obligé de faire confiance. C'est pas possible. C'est une maladie. Une maladie très grave qui fait que certaines personnes sont incapables de faire confiance à quoi que ce soit. Mais ils sont totalement malheureux, c'est devenu fou. La émouna, c'est la confiance. C'est-à-dire, on a confiance à Hachem, en Hachem, la confiance. Je fais confiance que tout ce qu'il fait, y compris toutes les découvertes, etc., vont dans le bon sens, mais il s'agit de les critiquer. Il ne s'agit pas de considérer que... Ce qui est toujours très très grave, c'est, si vous voulez, c'est un peu le sujet qu'on avait à Hanouka, c'est la façon qu'ont certains d'asséner des théories, en fait, dont ils, eux, sont peut-être convaincus, je sais pas, mais de, comme si c'était des vérités. Mais tous les gens qui s'occupent de science savent très bien que les théories, elles sont, on établit une théorie, puis ensuite, on la confronte à la réalité, et tant qu'on peut la sauver en l'aménageant, ben, on l'aménage. Puis, il y a des moments où on apprend quelque chose, il y a un phénomène qu'on n'arrive pas du tout à expliquer par la théorie, donc on est obligé de changer de théorie. Donc, ou bien on en a ou on n'en a pas, ou on en essaye. On essaye des théories. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens qui assènent les choses comme si c'est des vérités premières, la Torah, c'est justement cette obligation qu'on a de critiquer ce à quoi on fait confiance aux Chachamim. Mais les Chachamim eux-mêmes, ils ont discuté entre eux. Ils se sont opposés, certaines fois, radicalement, les uns aux autres. Certaines fois, la Gemara elle-même, elle dit, on va pas trancher cette question. C'est cool. On la laisse ouverte. On veut la laisser ouverte. C'est pas qu'on sait pas trancher. On ne veut pas trancher. Parce qu'il y a des choses qu'il faut vivre. Toi, tu penses comme si, on pense comme ça, on peut penser autrement. Il n'y a pas qu'une seule voie. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont parfaitement, disons, j'aime pas ces mots orthodoxes qui viennent pas de chez nous, c'est des mots grecs. Donc, pourquoi on dit ça? Il y a plein de gens qui respectent les mitzvot de la Torah à leur manière, etc. Qui pensent sur certaines questions, ils pensent tout à fait autrement que les uns que les autres. Donc Rabbi Meir ici, pour revenir à notre Midrash, Rabbi Meir lui explique. Et donc, il pose une première question sur les eaux d'en haut. Alors, il lui a dit, il lui a fait la démonstration. Le Kouti, il dit pas « je suis convaincu » ou un tout, il envoie une deuxième question. Mais a priori, s'il pose une deuxième question, c'est que de deux choses l'une, ou bien avec ces questions, il voulait mettre Rabbi Meir en difficulté. Il voit que ça marche pas. Alors il essaye une autre question. Ou bien effectivement, il est con. Il dit, ouais, c'est une bonne réponse. J'ai d'autres questions, mais je vais profiter de les poser. Alors qu'est-ce qu'il pose comme deuxième question? Alors, il y a une autre question, c'est la toute-puissance d'Hachem. Hachem remplit le ciel, la terre, etc. Et donc, comment penser qu'Hachem puisse parler à Moshe Rabbeinu entre les deux barres du Aaron, c'est quelques qui sont distantes de quelques centimètres? C'est pas possible. Comment est-ce qu'Hachem peut, lui qui remplit le monde, comment il peut se concentré en une tête d'épingle, si vous voulez, si on voulait dire comme ça. Parce que la Gemara, elle va dire, il peut aussi parler entre deux cheveux de ta tête. Alors, il n'y a pas de limite. C'est ça le grand, si vous voulez, la grande affaire, c'est de comprendre que Hachem n'a pas de limite, tout est possible, y compris des choses qui ont l'air contradictoires. Parce que la contradiction, c'est dans notre système de rationalité à nous. Hachem peut faire des choses qui nous apparaissent comme contradictoires. Alors, dans certains cas, on arrive à lever l'apparente contradiction, mais des fois, on n'arrive pas. Et le prototype de ce qui est contradictoire, c'est Shamaim. Shamaim, c'est Esh ou Maim. Esh ou Maim, ça peut pas coexister. Et pourtant, ça existe. Vous voyez, dans le dans le nom de Shamaïm, de des cieux, il y a cette impossibilité de coexister qui est néanmoins présente. Alors il dit, comment est-ce que ça, il peut faire les deux choses? Eh bien, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, tu vois, tu peux avoir des images de toi qui sont ou bien beaucoup plus grandes que toi ou beaucoup plus petites que toi. Donc toi-même, par le biais des miroirs, d'accord, tu prends des miroirs concaves, convexes, et puis avec ça, tu fais ce que tu veux. Donc évidemment que si toi, tu peux le faire, toi, tu peux fabriquer des images. Et donc, c'est intéressant ici de voir qu'il s'agit d'images. Parce que quand on dit qu'Hachem remplit le monde, ou quand on dit que Hachem parle entre les badets à Aaron, entre les barbes, ce sont bien sûr des images. C'est pas qu'Hachem se gonfle, c'est pas la grenouille qui, c'est pas, on parle pas de Hachem. On parle de, c'est une façon de parler de la Hanaga d'Hachem, la façon dont Hachem gouverne le monde. La façon dont moi je dois réfléchir quand je veux comprendre quelque chose à la, quand je vais essayer de comprendre quelque chose à la façon dont Hachem gouverne le monde. Ce sont des images. Il s'agit pas de savoir si Hachem est concentré ici dans cet espace, mini-espace, ou s'il est non, comme si, même s'il remplit le ciel et la terre, de toute manière, ça veut rien dire pour Hachem. Hachem peut tout. Alors, ce qu'il lui dit, c'est, même les hommes peuvent produire d'eux des images différentes. Alors là, ce dont on te parle, quand on te dit que Hachem remplit, ou quand on dit qu'Hachem parle entre eux, ce sont des images. C'est simplement une image. On peut présenter l'image qu'on veut. Il suffit d'utiliser, pour toi, il suffit d'utiliser ce miroir ou un autre. Donc la deuxième question qu'il a posée, c'est donc cette capacité pour Hachem d'être à la fois quelque chose et son contraire, quelque part. À la fois remplir le monde et à la fois être concentré dans un espace absolument minuscule. Et si tu penses que c'est entre les badets, entre les barres du Aaron, mais entre les barres du Aaron, il y a quand même quelques centimètres. Alors, je te dis tout de suite qu'Hachem peut te parler entre deux cheveux de ta tête. T'imagines pas qu'il faut un certain nombre de centimètres quand même. Il n'y a pas de limite. Si vous voulez, cette idée de la non-limite de Hachem, elle est très importante parce que ça nous enseigne quelque chose sur le fait d'être le peuple d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le peuple d'Hachem? Enfin, tout ce qui est dit sur Hachem, d'une certaine manière, est dit pour que, on n'est pas en train de faire la théologie, je vous l'ai dit souvent. Donc, nous dire des choses sur Hachem, c'est nous dire des choses qui nous concernent. Qui concernent le peuple juif, en fait. On retrouve ici, selon dont on a parlé souvent, cette histoire de la montagne retournée. C'est pas parce que la Torah qui nous a été donnée, pour beaucoup de gens, la Torah, c'est un ensemble de contraintes. Ils ne voient rien d'autre qu'un ensemble de contraintes. Et certains pensent que ce sont même des contraintes qui nous empêchent de vivre, qui les empêchent de vivre. Mais l'histoire de la montagne, retournez, vous vous souvenez, ça vient dire que en acceptant la Torah, c'est la Torah dont on parle ici, c'est toujours la Torah orale. C'est ça qu'il s'agit, c'est ça qui faisait problème, parce que c'est ça le grand problème. C'est-à-dire les chachamim, vous, moi, etc. Des gens, quand on étudie vraiment de la Torah, on produit de la Torah. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est inadmissible, parce que on produit de la Torah d'Hachem. Mais ce qu'Hachem a montré au Bnei Israël, il leur a dit, en fait, si vous n'acceptez pas la Torah, alors vous serez un peuple comme les autres. C'est-à-dire, vous serez en réalité, ne pas accepter la Torah, c'est revenir en arrière sur le deal que Hachem a proposé à Abraham Avinu. Vous vous souvenez, Hachem a dit à Abraham Avinu, tu as le choix pour tes descendants. Ou bien ils vont, tu choisis la mort ou tu choisis l'exil. Choisir la mort, c'est pas que tu les condamnes à mort. C'est choisir la mort, ça veut dire ton peuple, il sera comme les, comme on dit, toutes les civilisations sont mortelles, c'est-à-dire vont avoir, ça va grandir, puis ça va atteindre son apogée, puis ça va retomber jusqu'à disparaître complètement. Est-ce que tu veux que le peuple juif soit, tes descendants soient un peuple qui obéissent à cette loi-là, ou est-ce que tu veux autre chose? Est-ce que tu acceptes l'exil? Tu acceptes que l'histoire de ton peuple, certainement, elle commence par un esclavage. L'exil est un esclavage. C'est-à-dire passer par une forme de recherche d'obscurité. C'est pour ensuite arriver à la lumière, et tout en restant toujours petit, mais en ayant l'éternité. Et Abraham a choisi ça, et donc il fallait en passer par cet exil incompréhensible, n'est-ce pas, l'exil en Égypte, qui ne fait pas partie des quatre exils. Celui-là, il est plus fondamental, il est différent en quelque sorte. Et il ne se base pas sur une erreur d'Israël. C'est un deal. Abraham a choisi cette façon de faire. Et donc, en quelque sorte, si on n'accepte pas la Torah, alors on retombe dans la situation d'un peuple qui va vivre, qui va grandir éventuellement, mais qui va disparaître finalement. La mouche qui est prisonnière sous le ver que vous avez retourné, elle n'est pas écrasée par le ver, mais elle va finir par mourir. Alors que si vous ouvrez si on accepte la Torah, elle ouvre l'horizon justement. Elle enlève ses barrières, ses limites. Les limites, elles viennent d'un refus d'accepter l'illimité. Et l'illimité qu'on accepte, c'est l'illimité d'Hachem, c'est-à-dire que Hachem peut tout, et on accepte tout. C'est pas la caractéristique d'Abraham Avinu, puis ensuite de Moshe Rabbeinu, c'est toujours leur fameux Hineini, me voici, prêt à tout. J'accepte tout. Je m'écrase complètement devant Hachem. Donc c'est toujours cette illimité d'Hachem qui nous sert à nous pour que chez nous aussi ça soit non limité. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de, si vous voulez, il n'y a pas d'ensemble de dogmes, si vous voulez, qui vont définir c'est un problème qu'on a avec Rambam un petit peu, mais de toute manière, il faut regarder le Rambam, mais pas ce qu'on en a fait. Donc, il lui a posé cette deuxième question. Et il lui a répondu, Rabbi Meir lui a répondu, en lui expliquant que, effectivement, Hachem peut tout. Tout est son contraire aussi. Mais toi aussi, tu peux. À ton échelle, tu peux faire la même chose qu'Hachem. Tu peux donner une image de toi qui est grossie, une image qui est ici. Tu peux faire la même chose. Avec de la technologie, avec des miroirs. C'est-à-dire, bon, ça fait partie de la science que tu as appris à utiliser, à tailler des miroirs. Tu peux obtenir ce résultat. Tu peux donner une image de toi qui est comme ci ou comme ça. Aujourd'hui, on peut le Photoshop. Si Rav Meir avait le Photoshop, il aurait dit, on fait Photoshop, tu verras, tu peux te modifier comme tu veux. Donc ça, c'est la deuxième question qu'il a posée. Et finalement, ce qui se passe, c'est que il va poser une troisième question. Mais entre-temps, je ne sais pas pourquoi, entre-temps, le Midrash insère ce Rabbi Hanina bar ici, qui dit que « Permim she'ena olam » ומלואו מחזיקים כבוד אלוקותו, פעמים שהוא מדבר עם האדם מבין שערות ראשו. Donc, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qui est dit à Iov, à Job, d'accord, où Hachem lui parle dans la tempête, et nos chazal, nos maîtres disent, il ne faut pas dire il a parlé dans la tempête, il a parlé entre deux de ses cheveux. Donc, en fait, je ne sais pas si ce que Rav Hanina rapporte le plus, bon, il a introduit cette notion de entre deux cheveux, c'est le dracha sur le pasouk de Iov. Je voudrais juste avancer et on reviendra après sur ce Rafranina. Il a posé une troisième question. Il a dit, finalement, ces eaux d'en haut, il se base sur un pasouk dans Tehilim, ces eaux d'en haut, elles restent toujours aussi pleines. Comment se fait-il que il n'y a pas de perte du tout. Ça n'existe pas, là. Une situation dans laquelle il n'y a absolument aucune perte. Alors, il lui a dit, effectivement, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu vois bien, que il peut y avoir des choses qui sont émises, si on peut parler comme ça, et néanmoins, ça n'affecte pas. La source ne perd rien. Comment c'est quoi dans notre langage? Ça, c'est la définition quasiment de l'infini. D'accord? Ça veut dire que on sait infini, vous pouvez enlever une partie, si grande que vous voulez, ça restera toujours infini. Et donc, ce qu'il lui dit, c'est que tu vois, ton organisme, il a cette qualité-là. Quand il a créé les hommes, il les a créés avec cette qualité-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut produire, mais ça n'enlève rien. Il y a une dimension d'infini dans le corps humain. Parce que ça n'existe pas, cette histoire que tu vas produire toute cette transpiration, toute cette eau que tu as évacuée, qui est sortie de ton corps, et finalement tu n'as rien perdu. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'infini dans l'être humain. Et en fait, cette dimension d'infini dans l'être humain, elle reflète évidemment la dimension d'infini du monde. D'accord? En fait, le monde est essentiellement, parce qu'il est le monde d'Hachem, c'est essentiellement infini.
Rare,
Oui.
Je comprends pas cette notion d'infini du corps humain. J'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire là.
Je veux dire que ce qu'on lui montre, c'est que bien sûr le corps humain, il a l'air complètement fini. On peut donner des mesures assez claires, etc. Et néanmoins, il lui donne un exemple où on voit qu'il y a quelque chose d'infini dans son corps, puisque il produit quelque chose qui sort de son corps, et ce à partir de quoi ça a été produit n'est pas affecté. Bon, ça n'existe que dans l'infini, ces choses-là. Ça n'existe pas dans le fini. Si vous enlevez une partie de quelque chose de fini, la chose est diminuée. Il n'y a que dans l'infini que vous pouvez enlever une partie sans que la qualité d'infini soit affectée. Donc il y a bien une dimension d'infini qu'on voit presque pas, quelque part. En tout cas, disons, dans l'observation telle qu'elle il pouvait la faire ici. Je ne sais pas exactement si on verrait pas une diminution. C'est en tout cas dans ce qu'on voit extérieurement, c'est comme ça. Alors, est-ce que, effectivement, si on pouvait mesurer au nanogramme, etc., peut-être qu'effectivement on verrait une différence. Mais peu importe, on parle de choses qu'on peut voir. L'expérience que tu peux faire, tu fais une expérience d'infini dans ton corps. Ça veut dire que toute cette notion...
Oui, c'est la dimension, en fait. C'est la dimension de ce que peut produire le corps ou l'esprit, en fait. C'est l'idée de la production de ce qu'il peut faire.
Oui. Voilà, c'est même le corps, même la matière, semble-t-il.
Oui, c'est ça, oui, d'accord.
Pas simplement spirituellement, c'est infini.
Oui,
oui. Même le corps apparaît comme capable d'infinitude, je veux dire, d'être infini, quoi. Alors ensuite, effectivement, alors maintenant, étant donné que ce fameux ruisseau d'Elohim dans le verset des psaumes, Peleg Elohim, Malemaim, Mishashetim et Breshit, le mot qui est utilisé pour cette notion de ruisseau, c'est Peleg. Et Peleg, c'est plague. Plague, ça veut dire la moitié. La tour de Babel, elle s'appelle, c'est la tour de Palaga. C'est la même racine. Pourquoi? Parce que c'est la tour où on a séparé. Les choses ont été séparées. Il y avait une tentative d'unification de l'humanité pour lutter contre Hachem, dirigée par Nimrod. Et Hachem n'a pas laissé faire, il a dispersé tout ça. Donc il y a une dispersion. Ce ruisseau d'Elohim, d'accord, qui apparaît comme un, en réalité il est deux. Il est deux parce que Hachem l'a séparé en deux. Mais il est, c'est un qui est séparé en deux sans qu'il soit affecté en quelque sorte. La moitié étant dans l'eau de l'océan et la moitié des eaux d'en haut. Quelque part, c'est des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. D'accord? Et ça, c'est ce qui s'appelle le ruisseau d'Elohim. Donc, c'est-à-dire, c'est un ruisseau. Mais dans son nom indique que il va être partagé. Peleg. C'est cette idée d'une séparation. C'est de nouveau cette idée probablement d'infini, d'accord. Ça veut dire que vous le partagez en deux et il reste toujours infini, il reste toujours un, en fait. Donc ça, peut-être qu'il faut entendre ici que la création, elle, c'est ça le grand problème. Comment le un peut donner deux? Comment un absolu peut donner deux? Ça, c'est la grande question. Biiten, qui est-ce que... Il n'y a que Hachem qui peut faire une chose pareille. Qu'un un absolu donne deux. Et deux opposés, en fait. L'océan et les eaux d'en haut. Donc, c'est de nouveau cette idée Donc petit à petit, Rav Meir lui a donné un enseignement complet, assez, très complet, qui parle à la fois de la toute-puissance d'Hachem, de l'unité infinie de Hachem, et la première question qu'il avait posée, c'est que tout n'existe dans le monde que par la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, si tu veux avoir une approximation de la parole d'Hachem, regarde la clepsydre. Mets ton doigt, tu verras. On peut arrêter l'écoulement de l'eau sans toucher l'eau et sans boucher les petits trous. Alors juste encore un mot sur Afranina. Pourquoi est-ce que le Midrash rapporte sur Afranina au milieu d'une discussion qui a lieu entre Rabbi Meir et le Kouti, je veux dire, le rédacteur du Midrash, il a jugé nécessaire de nous donner cette information supplémentaire, en quelque sorte. Qu'est-ce que dit Afranina Barissi? D'abord, il dit effectivement, dans le monde, certaines fois, le monde ne peut être marzik le kavod de la divinité. C'est-à-dire, normalement, le kavod, c'est toute la gloire. C'est-à-dire, il faudrait une cour impossible. Hein. C'est un roi qui devrait avoir une cour incroyable. Et donc, le monde ne peut pas fournir ce kavod. Et d'autres fois, Hu Medaber, alors tout à coup, le Hu, c'est Hachem. Hachem, néanmoins, bien que le monde ne puisse pas, le monde entier ne peut pas lui donner ce qu'il devrait lui donner, mais néanmoins, Kadosh Baruch Hu est capable de parler avec un être humain et de lui parler entre deux cheveux de sa tête. Et ça, il l'apprend du pasouk de Iov, qui dit qu'Hachem parle à Iov au milieu de la tempête. C'est-à-dire, quand il y a la tempête, on a l'impression que les éléments sont complètement déchaînés, et Hachem parle à Iov, c'est-à-dire, il donne du sens à ce qui a l'air un chaos complet. La tempête, ça a l'air complètement chaotique. Donc, si Hachem parle à Iov, il va donner du sens à ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est ça le... Je crois que ce que vient donner Rav Hanina, c'est cette dracha sur Sarot, pour dire que Hachem peut parler à l'homme. Alors, où qu'il soit, en quelque sorte, quelle que soit la situation, quel que soit le chaos dans lequel il est pris, au milieu de la tempête, Hachem lui parle. Pourquoi? Parce que Hachem n'est pas affecté du tout par la tempête, et d'une certaine manière, l'homme, si Hachem lui parle, ben, l'homme va pouvoir résister à la tempête, il va pouvoir donner du sens à ce qu'il a, à ce chaos dans lequel il est projeté maintenant par la tempête. Et c'est ça je crois que c'est cette idée de cette donation de sens dans toutes les situations. C'est ça que le Midrash veut, enfin ce que Rav Hanina veut dire plus fortement que ce que Rav Meir lui a dit. Il dit voilà, c'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, ne crois pas que tu as posé cette question que Hachem peut pas se réduire, et il lui a expliqué que de même que toi tu peux te réduire, Hachem aussi peut se réduire. En fait, quand on dit, c'est pas seulement un problème pour Hachem de se réduire, c'est que parfois le monde ne peut pas donner à Hachem ce qu'il devrait lui donner, en quelque sorte. Il devrait lui donner plus de kavod et le monde ne peut pas le faire. Le monde entier, tout son contenu, il n'arrive pas à contenir la gloire divine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement énorme que ça, c'est pas possible. L'homme ne, l'être humain, enfin le monde, pardon, le monde ne peut pas donner le kavod qu'il devrait donner. Mais ça n'empêche pas Hachem, en plein chaos, de parler à l'homme. Il lui parle avec avec son corps, enfin en utilisant le corps de l'homme, sa tête, ses cheveux. Il lui parle. Et donc, il va donner du sens. Malgré qu'on n'arrive pas à donner le kavod qu'il faudrait donner, mais Hachem peut venir et nous donner le sens. Même si nous, on n'arrive pas à comprendre, à donner tout ce qu'on devrait donner pour bien comprendre ce que Hachem nous donne, en fait. Le kavod qu'il faut lui donner, c'est, il devrait être à la hauteur de ce qu'Hachem donne au monde, en fait. Ça, on n'est pas capable. Mais ça n'empêche pas Hachem de nous parler quand même. Et il faut savoir que même dans le plus grand chaos, Hachem parle. C'est-à-dire que Hachem n'est pas affecté par le chaos. Évidemment. Mais la relation de l'homme avec Hachem n'est pas non plus affectée. Dans le pire des chaos, il faut trouver Hachem parce qu'Hachem te parle. C'est-à-dire, c'est Hachem qui prend l'initiative de te parler. Même si nous ne sommes pas capables de prendre l'initiative de lui donner le kavod qu'il faudrait lui donner, eh bien Hachem prend lui-même l'initiative et il nous parle. C'est-à-dire, donc, quelle que soit la situation tragique, affreuse, etc., de souffrance, etc., tout ce qu'il y a, Hachem te parle. Si tu écoutes, Hachem te parle. Il te parle d'entre deux cheveux, quelque part. Voilà, voilà ce que je voulais dire là sur ce midrash.